Au quotidien, avec Hélène Denis.
C'est le 10 décembre 2025. Ça veut dire que dans 15 jours, ce sera Noël.
Ce sera Noël.
Le 25 du 12 2025. Est-ce que vous avez vu l'année passée, vous? Est-ce que vous avez vu l'année passée?
Ça
passe vite.
Oui. Parlez devant le micro, ça sera encore mieux.
Un de mes enseignants nous disait qu'il était plus vieux que nous. Puis il disait, vous allez voir les jeunes, là, il dit, quand vous arrivez passé 50 ans, là, il dit, le Noël passé, vous avez l'impression que c'était il y a une semaine.
Ouais. C'est Serge Fiori aussi qui disait que justement, à partir de 50 ans, quand on, de 0 à 50, on monte comme dans une montagne russe, là, tu sais, dans le, un manège, là, à la ronde, mettons, là. Et puis, à un moment donné, on atteint le plateau, puis on descend à partir de 50, on voit pas le temps.
C'est une bonne
oui,
image.
Oui, hein, une bonne image. J'avais bien aimé. Et moi, j'ai l'impression que j'ai été en crazy carpet toute l'année, là. Ça, en folie. Ça a filé. Alors, Isabelle, vous êtes de bonne humeur?
Oui, quand même.
Pourquoi ce quand même?
Non, ben il se passe des choses dans ma famille, là, proche de Noël, comme dans plusieurs familles, je suis certaine.
Oui.
Mais ça va tout être établi d'ici le temps des fêtes, là. C'est certain. Non, mais moi, j'ai très hâte de fêter Noël parce que les deux derniers Noëls, j'étais malade, alors j'ai pas pu être là.
Vous étiez sur le carreau.
Oui. Je suis presque en forme, donc.
Mais on espère que d'ici Noël, parce qu'il reste quand même 15 jours, vous allez maintenir votre bonne santé. Isabelle, votre sujet du jour.
Oui, en fait, vous avez sûrement entendu parler ou vu ça sur certains aliments. Il y a le fameux nouveau symbole nutritionnel qui
non, j'ai pas remarqué.
Non, ben c'est ça, moi non plus. Mais il y a des compagnies qui ont devancé l'obligation. Mais à partir de janvier, ça va être obligatoire pour tous les aliments transformés. Donc, c'est pour nous avertir de la présence de certains aliments qui sont pas bons, dont le sel, le sucre, etc. Mm-hmm. Et ça va nous aider à faire des meilleurs choix.
Bon, c'est super ça. Ben merci beaucoup de contribuer à ce qu'on soit au courant et à ce qu'on fasse des meilleurs choix. Et vous allez dans l'ambiance de Noël, Serge Bradet?
Absolument. J'ai trouvé un petit bijou de livre. Quand je pense à mes Noël de Dominique Trudeau, qui est un monsieur qui a beaucoup de chapeaux, mais entre autres, il est créchiste. Il collectionne les crèches.
Ah oui? Wow.
Il a une collection de plus de 700 crèches.
Ah! Ça s'appelle un créchiste.
Oui, ben j'avais jamais entendu ça.
Mais moi non plus.
Et il en a hérité de son père, et puis il a continué la collection. Et il y a même une expo. Puis il a écrit ce livre-là, qui est un petit bijou. C'est pour moi. Je trouve que c'est pour comme les Tintins, des 7 à 77
ouais,
ans.
Oui, et même
vous
plus.
En parlez, oui. Puis je devrais avoir le temps de vous parler également de marché Noël en Europe.
Super, merci beaucoup. Et l'exposition de crèches, vous allez nous dire si on peut la.
Oui,
la
oui, il y a trois endroits près de Montréal.
OK.
Puis
parfait.
Un à Charlebourg.
OK. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Bien, des chansons, quelques chansons de Noël, quelques chansons d'hiver. Et on parlera aussi, bien, il sera en studio. Il s'appelle Willem de Kay. C'est un cinéaste et il est Montréalais d'origine martinaise. Il vient nous présenter son documentaire sur un ensemble vocal gospel. On aura l'occasion d'écouter une chanson de ce chœur qui chante avec beaucoup de cœur, il va s'en dire. Chronique cinéma avec Louise Véronique Sicotte qui nous présentera deux films qu'elle a vus. Calorie, que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé. Marche au pays réel et Le serment d'Hippocrate. Et on prendra des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette.
Avec son côte en minou bleu, son foulard rouge, son béret noir. Mettait comme un bouquet frileux au milieu de la patinoire. Moi je patinais sur la bottine, était-ce elle qui m'éblouissait? Était-ce le décor qui glissait? J'avais les jambes en gélatine, je n'en croyais pas mes rétines et j'en perdais tout mon français. Le vent emporta son béret et déploya ses longs cheveux. Elle dut marquer un temps d'arrêt et j'eus le temps de faire un vœu.
son béret vole jusqu'à moi, que je puisse mieux voir sa frimousse, que je me porte à sa rescousse, qu'on se regarde avec émoi, en souhaitant que le vent me pousse, moi qui patine comme une oie. Le béret soufflé dans les airs semblait ne plus vouloir tomber. Je patinais tout de travers en le voyant se dérober. Était-ce le hasard qui voulut faire preuve de haute précision lorsque j'entrais en collision avec la belle chevelue, exécutant pour l'occasion un acrobatique salut? Étendu parmi les étoiles, foudroyé à deux minutes près. Quand le vent releva le voile et fit retomber son béret, me suis perdu dans ses yeux d'ange et pendant un instant heureux, comme lorsque l'on tombe amoureux, ce moment de curieux mélange où tout est tellement doucereux que vraiment rien ne nous dérange. Toutes ces fées sur qui l'on tombe et dont le secret nous attire, qui nous font l'effet d'une bombe et qu'on laisse pourtant repartir. Dans des circonstances nébuleuses, sans même de contact établi, et qui glissent vers notre oubli, parmi nos amours en veilleuse, sur des patinoires remplies de toutes ces belles patineuses.
Les patineuses, une chanson de Plume La Traverse.
Oui, très touchant Plume dans cette chanson. À la une du Devoir, la légendaire Béatrice n'est plus. Sa carrière aura transcendé les époques des planches jusqu'au doublage de la voix de Marge Simpson. D'ailleurs, mon filleul m'a envoyé ce matin une photo. Il portait le T-shirt des Simpson en hommage à Béatrice Picard. Pour les plus jeunes, justement, elle était la voix de Marge. C'est-tu Marge? Marge Simpson, pour les plus vieux, la partenaire de jeu d'Olivier Guimond et de Gilles Latulippe. On se souvient de son rôle, entre autres, d'Alice dans Cré-Basile. La légendaire actrice Béatrice Picard est décédée dans son sommeil mardi à l'âge de 96 ans. Le milieu artistique québécois perd l'une de ses doyennes. Rares sont les comédiennes québécoises qui peuvent se targuer d'avoir mené une carrière qui aura à ce point traversé les époques. Béatrice Picard avait fait ses premiers pas sur les planches en 1948, il y a 77 ans. Elle aura exercé son métier jusqu'à la toute fin. « Je veux jouer au théâtre jusqu'à 100 ans. Après, peut-être que je penserai à la retraite », se plaisait-elle à répéter en entrevue avec son énergie débordante. Dans un message transmis au Théâtre du CEP, la famille de Béatrice Picard a souligné que durant toute sa vie, Béatrice a su conjuguer sa vie familiale avec sa passion pour les arts de la scène et les causes qui lui étaient chères. Elle est impliquée partout. D'ailleurs, elle a fait du bénévolat à la magnétothèque qui est devenue Vues et Voix. Les petits frères également, elle est impliquée dans cet organisme-là. Et puis, elle a aussi été la porte-parole, la présidente du Salon des aînés pendant plusieurs années. Et il nous semblait donc naturel de partager cette nouvelle avec ses amis, ses collègues du milieu artistique et surtout avec son public pour qui elle a eu une pensée jusqu'à la toute fin. Ça fait partie du message de la famille de Béatrice Picard, elle qui a eu 4 enfants. Béatrice Picard aura en bout de piste joué dans quelques 200 pièces, partageant la scène avec des monstres sacrés du théâtre québécois, qu'on pense à Gracien Gélinas, Jean Duceppe et tellement d'autres. Mais de son propre aveu, c'est au crépuscule de sa vie, après l'âge de 80 ans, qu'on lui offrira ses rôles les plus intéressants. Ses performances dans Peter et Alice en 2014 et dans Harold et Maude, aussi chez Duceppe en 2017, auront été unanimement saluées. Aussi à la une du Devoir, le Canada allié de la domination américaine, point d'interrogation, l'ambassadeur des États-Unis au Canada, Pete Hoekstra, se dit enthousiasmé par les plus récentes décisions prises par Mark Carney. C'est à lire dans le Devoir. À la une du Journal de Montréal, Béatrice Picard, une pluie d'éloges pour Béatrice Picard. Aussi itinérant couché dans les corridors, chaos à l'hôpital de Saint-Jérôme, des dizaines de sans-abri à la recherche de chaleur la nuit se retrouvent à l'urgence de l'hôpital de Saint-Jérôme où ils consomment et commettent des incivilités, voire des actes violents devant des employés, des patients impuissants et apeurés. Et par courriel, le 6 des Laurentides n'a pas semblé reconnaître le problème, écrivant laconiquement que certains comportements ne sont pas tolérés et que l'hôpital de Saint-Jérôme ne peut être considéré comme une halte chaleur. Et grève évitée chez Air Transat, c'est à la une du Journal de Montréal, et c'est ce qui occupe aussi la une de la Presse Plus. C'est l'espace principal de la Presse Plus, Air Transat de justesse. De nombreux voyageurs peuvent pousser un soupir de soulagement à l'approche des fêtes. Avec l'entente de principe annoncée hier soir, la grève des pilotes est évitée. Mais l'annulation de vol et l'incertitude des derniers jours auront causé beaucoup de tracas. Béatrice Picard, tout sourire 1929-2025, le feu sacré jusqu'à la fin. Et puis, à la une de la Presse, on parle de déneigement, hein, parce qu'on a commencé à les voir, là, les chenillettes, entre autres, parce qu'on parle des chenillettes qui font des dégâts. Clôture arrachée, plate-bande à refaire, vélo désarticulé, arbre déraciné. Mathieu, vous me parliez de sacs poubelles qui étaient éventrés. Des citoyens fulminent. Alors, il en est question dans la presse d'aujourd'hui, sous la plume de Chloé Bourquin, Marie-Ève Moras et Éric Martel. Ensuite, on parle également de bombes à retardement des tarifs d'électricité. C'est la chronique de Francis Vaille. Question économique pour vous. Entre ces deux options, laquelle est préférable pour un gouvernement en manque de revenus? Augmenter les impôts ou hausser les tarifs d'électricité? Pour moi, le choix est clair. Le gouvernement ne devrait pas augmenter les impôts et pénaliser le travail. En revanche, hausser les tarifs d'électricité pour freiner la surconsommation est essentiel en cette période de transition énergétique.
Je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Je vous laisse, mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver chanté par les charrues. Je vous laisse, mon scraper le appel de bois pour vous rendre à la lue. Je vous laisse, la petite glace dans l'escalier tournant qui vous fera tomber sur. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en priant le soleil dans l'eau à genoux. Je vous laisse les enfants qui s'assomment en speechant des balles de neige en glace en pleine face. Je vous laisse les enfants qui ont la langue collée sur les tracks et qui pleurent parce que le train s'en vient. Je vous laisse les enfants mangés par la souffleuse à 4 heures dans un fort trop sucré. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous assis dans la soupe bleue jusqu'au cou. Je vous laisse le but du Canadien compté par Jean Béliveau sans aide. Je vous laisse les pieds gelés dans la slotch, un transfert entre les dents. Je vous laisse mes chaloupes dans le portique, mes mitaines et ma gratte en plastique. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil.
Robert Charlebois, bien sûr, et sa chanson « Demain l'hiver ».
Erratum concernant le rôle de Béatrice Picard au Salon des aînés de Saint-Jérôme. Elle n'était pas présidente, mais plutôt porte-parole et marraine. Et elle n'était pas la présidente non plus de l'organisme Les Petits Frères, mais plutôt marraine très influente. Alors, c'est à Isabelle Falardeau qui revient le privilège de parler en onde.
Et moi, j'ai rencontré Béatrice Picard quand j'étais lectrice bénévole à Visez-Voix, parce qu'elle était lectrice aussi le même jour que moi.
Ah oui! Est-ce que vous avez eu la chance d'échanger avec elle?
Extrêmement sympathique. Je ne peux pas penser à une meilleure personne. Elle était tellement généreuse de son temps, de sa présence. Et puis, toujours le mot pour rire. Là,
oui, hein, très attachante.
Très attachante.
Merci Isabelle. Alors, donc, un article que vous avez pris dans, que vous avez trouvé dans Mordu.
En fait, non, celui-là, c'est
Togo.
Sur le site oui. Togo, oui, montogo.ca. Et donc, c'est l'équipe de l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire qui a rédigé cet article. Donc, un aperçu du nouveau symbole nutritionnel à l'épicerie. Donc, ce nouveau symbole obligatoire sur les emballages alimentaires qui vient à notre rescousse pour faire des choix plus éclairés à l'épicerie. Ça devrait nous aider à repérer en un coup d'œil les aliments transformés qui sont riches en sucre, en sodium ou en gras saturé. Et donc, on nous explique de quoi il s'agit. Donc, dans la dernière année, comme je disais, ça se peut que vous ayez remarqué l'apparition de ce symbole sur certains emballages. Il s'agit d'une loupe avec une grosse loupe. Et puis, à droite, c'est écrit « élevé en high in » parce que c'est bilingue, bien sûr. Donc, gras saturé, sucre, sodium, Santé Canada. Qui est écrit en bas. Donc, ça, c'est le symbole. Donc, la grosse loupe, là, c'est ce qui attire l'attention. Et donc, ça va être obligatoire à partir du 1er janvier 2026, mais il y a certaines compagnies qui ont devancé l'obligation et qui ont commencé à la faire apparaître sur leurs emballages. Donc, pourquoi un nouveau symbole nutritionnel sur les emballages? Bien, c'est pour nous aiguiller plus rapidement vers les choix éclairés pour notre santé. Il faut dire que, selon une vaste enquête, les aliments ultra-transformés représentent près de 50 % des apports énergétiques plutôt, quotidiens au Canada. J'ai vu ça passer beaucoup là, dans mes... parce que moi, je perds une veille là, d'articles sur l'alimentation. Et puis, cette enquête-là, elle a vraiment été partagée par plusieurs médias. Donc, et c'est le même constat qui était pour la population québécoise. Donc, les produits ultra transformés comme les repas préparés surgelés, les biscuits, les pâtisseries grignotines, etc., ils peuvent avoir des teneurs élevées donc en sucre, en sodium et en gras saturé, les trois nutriments qui sont surveillés par le nouveau symbole et qui sont associés à un risque accru de développer certains problèmes de santé chronique comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Évidemment, les aliments ultra transformés ne sont pas les seuls à contribuer à ces apports. Et donc, le symbole nutritionnel cible tous les aliments emballés qui présentent un tableau de valeurs nutritives. Donc, bien que ce soit principalement des aliments ultra transformés, ce sont pas les autres les aliments ne sont pas exemptés. En fait, il y en a quelques-uns qui sont exemptés, je vais vous le dire plus loin. Mais donc, s'il y a un tableau de valeurs nutritives, il faut qu'il y ait le petit symbole. Donc, le pourcentage de la valeur quotidienne fournie par une portion d'un aliment, c'est une information qui est déjà présente dans le tableau de la valeur nutritive. Et quand ce pourcentage dépasse le seuil établi pour un ou l'autre des trois nutriments, donc, je le répète, le sucre, le sodium, les gras saturés, le fabricant va être tenu d'afficher le symbole sur le devant de l'emballage. Donc, avant même d'avoir consulté le tableau nutritionnel, on va pouvoir savoir qu'il y a au moins un élément qui est présent en trop grande quantité. Donc, ça va être accompagné d'une mention qui concerne le ou les nutriments concernés. Et là, ça va être des seuils qui dépassent 10, 15 ou 30 % selon la catégorie d'aliments. Saviez-vous qu'il y a près de 2 produits transformés sur 3 qui sont touchés? Donc, c'est quand même énorme. Depuis sa création en 2016, l'Observatoire sur la qualité de l'offre alimentaire a étudié 15 catégories d'aliments différentes qui sont en vente dans les épiceries québécoises. Donc, plus de 5000 produits au total. Et il y avait 60% des aliments transformés qui avaient des teneurs élevées en sucre, en sodium ou en gras saturé ou plus qu'un des trois. Donc, c'est vraiment les deux tiers des aliments qu'on mange là, qui sont touchés par ça. Donc, c'est vraiment... on comprend pourquoi c'était important d'attirer l'attention sur ces aliments-là.
Et oui, c'est une question de santé publique.
Et donc, c'est ça. Il y a évidemment, les fabricants avaient l'option d'essayer de modifier la composition de ce qu'ils vendent. Mais si ce n'est pas le cas, ben, ils doivent, à partir du 1er janvier, afficher le symbole. Les soupes prêtes à servir, les viandes transformées, tranchées, les repas et pizzas surgelés et les sauces pour pâtes sont des produits qui sont réputés salés. Donc, pour ce qui est du sel, ça va être des aliments qui vont être touchés en grande partie. Mais il y a 5 catégories d'aliments qui attirent l'attention et vous allez peut-être être étonnés par certains. Donc, les pains tranchés. Saviez-vous que c'est souvent une trop grande source de sucre et de sodium? Les céréales à déjeuner, évidemment, pour le sucre. Les biscuits et les galettes pour le sucre et les gras saturés. Les grignotines, comme les croustilles de légumes ou de fruits, les grignotines en bâtonnets, et là, ça va être pour le sodium et les gras saturés. Et les produits de fromage, comme le fromage à tartiner, le fromage en tranches ou le fromage fondu en bloc. Encore une fois, ça va être pour le sodium et le gras saturé. Et il y a certaines catégories, justement, qui vont nous surprendre parce que on les consomme souvent comme les pains et les céréales. Et saviez-vous que les achats de pains tranchés représentent près de 30 % du sodium qui provient des achats des 5000 produits transformés étudiés? Donc, il y a un tiers de ces produits-là, pratiquement, qui vient des pains tranchés.
On mange plein de sel sans trop s'en rendre compte.
Oui, c'est ça. Donc, faites vraiment attention. Ça va peut-être vous aider là, à choisir des meilleurs pains. Parce que des fois, c'est vrai que ça dépend là, du pain tranché. On n'a pas tous le temps de faire notre propre pain au levain ou les moyens d'acheter du pain en boulangerie.
Mm-hmm. Mais ça vaut la peine de prendre le temps de lire les étiquettes.
Voilà, parce qu'ils ne sont pas tous égaux dans leur catégorie. Évidemment, ça ne veut pas dire que l'ensemble des aliments de ces 5 catégories-là vont porter le symbole. C'est plus que certains de ces aliments-là contribuent fortement aux apports en nutriments qui sont à limiter. Et donc, ça va être très utile pour faire des choix éclairés, justement. Si vous voyez que ça n'affiche pas le symbole, ben c'est un bon signe que c'est peut-être un bon choix. Et là, on arrive aux exceptions parce qu'il y a certaines exceptions. Il y en a qui sont vraiment évidentes, en fait, parce qu'on dit que c'est dès qu'il y a un aliment qui a un symbole nutritionnel. Donc, c'est sûr que les viandes et volailles crues, les poissons et les fruits de mer crus qui sont composés d'un seul ingrédient, ben là, c'est sûr qu'ils sont exemptés puisqu'ils ont juste un seul ingrédient. Ils n'ont pas de tableau de valeur nutritionnelle. Ce serait peut-être intéressant sur le steak de voir il y a combien de protéines, mais... C'est généralement pas le cas. Les produits qui sont préparés par le commerce avec leurs propres ingrédients, donc une sauce pour pâtes qui est cuisinée sur place, des repas préparés qui soient individuels ou familiales, ça c'est quand même une exemption intéressante parce que ça veut dire qu'on va falloir surveiller leur tableau nutritionnel parce que parfois ils vont quand même probablement dépasser les limites recommandées. Les produits dont l'emballage est de très petite taille, donc si vous achetez de la gomme à mâcher par exemple ou des bonbons vendus en boucher, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas de place là, pour mettre le symbole. Les aliments qui sont composés d'un seul ingrédient et dont la consommation a un effet protecteur démontré sur la santé. Là, on parle des fruits et légumes frais, congelés ou en conserve, le lait, les œufs, etc. Donc ça, c'est un peu évident aussi. Et là, comment utiliser le symbole pour faire des choix à l'épicerie? Voici donc quelques pistes pour vous aider à l'utiliser à bon escient. Évidemment, première chose, s'il n'y a pas de symbole, c'est probablement un bon choix. Mais après ça, c'est quand même recommandé de regarder la valeur nutritionnelle. Mais c'est un meilleur choix possible. Ensuite, si vous savez, vous voyez le symbole nutritionnel, ça ne veut pas nécessairement automatiquement vous dissuader d'acheter le produit, mais vous pouvez consulter le tableau de valeur nutritive, la liste des ingrédients. Et là, si vous n'avez pas le choix d'acheter ce type de produit-là, bien, vous pouvez en comparer deux entre eux. Mais c'est sûr qu'au moins, ça vous donne déjà une piste à surveiller. Donc, évidemment, là, peut-être que dans notre alimentation, dépendamment des problèmes de santé qu'on a, on peut plus surveiller le sel, plus surveiller le sucre. Si on fait de l'hypertension, par exemple, c'est très important, le sel, ben là, ça va tout de suite attirer notre attention. On peut regarder le tableau de la valeur nutritive, puis si on voit que c'est le sucre qui est en plus grande quantité, ben on peut faire attention avec ce qu'on mange dans le reste de la journée quand on mange ce produit-là. Et donc, évidemment, là, c'est pour la liste des ingrédients. La réglementation, comme je disais plus tôt, ça va peut-être inciter les fabricants à modifier la composition des produits. Mais là, il faut faire attention parce que parfois, on peut remplacer par des produits qui sont problématiques. Par exemple, si on remplace les sucres par des édulcorants comme l'aspartame ou le sucralose, il y a certains de ces produits qui ne sont pas suggérés. En fait, l'Organisation mondiale de la santé suggère de ne pas consommer d'édulcorants. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Là, si vous changez quelque chose, une mauvaise chose pour une autre mauvaise chose, ce n'est pas nécessairement mieux. Parce que l'utilisation à long terme des édulcorants, ça pourrait augmenter le risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de mortalité. Ça non plus, on ne veut pas ça. Donc, c'est vraiment important de regarder la liste d'ingrédients si on a deux produits similaires qui contiennent des teneurs en sucre qui sont vraiment différentes. Alors, des fois, ça peut être mieux d'acheter un produit qui a du sucre dedans, mais d'en manger moins que d'acheter un produit qui contient plein d'édulcorants puis de se bourrer la face, comme on dit. Et donc, finalement, le symbole nutritionnel va s'appliquer à une vaste majorité des aliments transformés, emballés, et ça peut réellement nous aider à orienter nos choix, mais comme on dit toujours, ça nous transmet seulement une partie de l'information. La liste des ingrédients et le tableau de la valeur nutritive, ça demeure toujours pertinent pour prendre les décisions les plus éclairées à l'épicerie.
Super. Alors, c'était un article que vous avez trouvé sur montougo.ca, aperçu du nouveau symbole nutritionnel à l'épicerie qui est le bienvenu finalement, mais aussi il faut retenir que la chose qu'il faut faire, c'est d'éviter le plus possible les aliments transformés, surtout les aliments ultra transformés.
Ultra transformés.
Parce que
voilà.
Souvent, c'est pas ce qu'on mange. Merci Isabelle. Mathieu. Ambiance lounge. Merci d'écouter Au quotidien. On est ensemble jusqu'à 11h. À venir, la chronique de Serge Bradet.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
D'Aigrelot, pour nous mettre dans l'ambiance. Oui. Vous allez nous présenter un livre qui vous plaît vraiment, qui s'intitule
«
Quand
oui.
je pense à mes Noëls » de Dominique Trudeau. Et les illustrations sont de qui?
De François Guillet.
François Guillet.
Oui, c'est aux éditions TNT. Et c'est Renaud-Bré 1899.
Ah, vous l'avez retrouvé chez Renaud-Bré.
Oui, je vous dis le prix là, parce
passant.
Que c'est vraiment plus qu'abordable. Plus,
ben
plus
oui,
qu'abordable.
20 ans de dollars pour un beau livre.
Oui, oui, oui. Alors, qui est Dominique Trudeau? Ben, Dominique Trudeau, c'est un metteur en scène, auteur et concepteur, très connu dans l'univers du spectacle de la télévision. Ça fait plus de 40 ans qu'il œuvre dans le domaine. Et, il est l'auteur du livre également, Joyeuse crèche, paru en 2014.
Oui, vous nous disiez que c'est un collectionneur de crèches.
Oui, 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 il y en a
c'est
plus.
C'est quoi déjà le mot pour...
Crèchiste.
Crèchiste.
Je sais pas, j'ai oublié de vérifier hier, c'était dans l'Académie française.
On va vérifier ça pour vous.
Et alors, c'est ça, ce livre, Joyeuse crèche, paru en 2014. Et depuis 2011, ben, il présente son exposition Joyeuse crèche dans plusieurs musées au Québec. Je vais vous donner quatre endroits où vous pouvez voir des crèches.
Oui, bonne idée. Oui.
François Guillet, lui, est né, figurez-vous donc, le jour de Noël.
Non.
Alors, il était tout à fait indiqué pour... la personne indiquée pour pour faire les illustrations.
Ça va être sa fête dans 15 jours.
Ben oui. Alors, il a commencé très jeune, hein, avec un personnage qui s'appelait Boff le Corbeau dans les pages d'un journal local. Et puis, il a fait beaucoup d'illustrations. Puis en 2023, il se donne pour mission de faire découvrir les belles églises de Montréal. Et il publie un livre, Montréal de clocher en clocher, publié aux éditions Médiapol. Alors, le livre, bon, il y a à peu près... il y a 66 pages et c'est tout divisé en des... C'est pas des chapitres, c'est des juste... vous avez peut-être des petites explications de sujets. Il y a une trentaine de sujets. Le calendrier de l'Avent, les crèches éphémères, Polynésie française, les crèches en Polynésie française, la paille, le premier repos du Christ, l'origine du sapin, boule de Noël, premier sapin d'Amérique du Nord... Bûche de ma mère, l'Arche de Noël, des souvenirs très personnels aussi de lui.
Ça fait le tour pas mal.
Oui, oui, oui. Et à chaque fois, regardez, je vais vous en lire un petit extrait. Puis c'est tout charmant comme ça. Regardez, vous avez l'explication. Oh, pas là, pardon. Et vous avez l'illustration à côté que vous pouvez compléter.
Ben oui,
ben
toi.
Oui,
oui. Il y a une bouteille d'eau qui vient de tomber,
oui,
mesdames
c'est pas
et messieurs.
Grave. Non, on est trop énervé par le livre.
On dirait, hein?
Ah oui. Alors, ça s'appelle Une nuit étoilée. Une légende raconte qu'une nuit, un homme se promenait dans la forêt, admirait les étoiles à travers les arbres et fut ému par leur beauté. Dès lors, il aurait eu l'idée de mettre des chandelles dans son sapin afin de reproduire cette image. Au début du 20e siècle, les bougies, qui inspirent le recueillement, évoquent la lumière des étoiles et le lever du soleil, sont remplacées par des ampoules électriques. Au fil des années, les divers éléments servant à décorer le sapin, d'abord conçus à la maison, sont de plus en plus produits industriellement. Et plus tard, le sapin de Noël artificiel fait son apparition. Traditionnellement, l'arbre de Noël doit être coupé, monté et décoré la veille de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre, et doit être enlevé précisément 12 nuits après pour l'Épiphanie.
Alors, j'aime bien cette tradition.
Oui, alors c'est tout comme ça, des petits segments là, que vous lisez et puis... on peut lire ça à un enfant avant de s'endormir, j'imagine. C'est bon.
Sûrement, c'est amusant, puis en même temps, c'est instructif, puis c'est bien illustré
oui,
aussi.
Oui, oui. Ah,
puis on
oui,
peut colorier.
Oui, ben oui, tout. Il y en a. À chaque fois qu'il y a un petit article, là, vous pouvez colorier à côté. Vous avez le dessin, puis c'est vraiment... vous pouvez même créer votre propre crèche de Noël avec les personnages.
Ah oui.
Votre propre boule de Noël, si vous voulez. Puis même on peut la découper puis la mettre dans le sapin, je crois.
Alors non, j'ai demandé à l'IA, là, le mot créchiste ne figure pas dans le dictionnaire de l'Académie française, ni dans les éditions récentes, ni dans les listes des mots nouveaux acceptés récemment, bien que le mot crèche il soit bien sûr, mais créchiste reste un terme plus informel ou spécialisé, parce qu'on peut l'utiliser aujourd'hui. Mais en tout cas, ça s'applique à cet homme, le Dominique Tremblay. Et on, Trudeau, dis-je bien, je pense à mon collègue des parasports. Et on peut voir ces crèches où?
Oui, les quatre endroits. Évidemment, vous ne voyez pas les 700 crèches. Hein, là.
Non, les 700 crèches sont réparties dans quatre endroits.
Oui, mais je ne sais pas s'il y a 700 crèches.
Oui, parce que ça en fait beaucoup. Mais même 700 divisé par 4, quand même beaucoup. Là.
Alors, vous pouvez à la bibliothèque de Beaconsfield jusqu'au 11 janvier 2026.
Oui.
Ouais. Ensuite... La vitrine de la biscuiterie Oscar au 3755 Ontario West jusqu'au 8 janvier 2026.
On va acheter nos nananes.
Oui,
puis
non, mais ça,
là.
Moi...
Hein? Oui, j'adore Oscar. Ouais.
Moi, quand je vais là, je deviens enfant. Je vais pour acheter ma gomme balloune.
Ah oui?
Ah oui, oui.
La bazooka?
Non, une autre, là. J'ai oublié le nom, là, est enveloppée individuellement.
OK, parce que j'ai Oscar,
ils ont la bazooka
on peut trouver
aussi.
Tous les bonbons de notre enfance
et
les bonbons
tout.
Aussi plus actuels. Ah,
pouvez-vous redonner l'adresse?
3755 Ontario S.
OK.
Oscar? Ils ne sont pas à la Plaza Saint-Hubert?
Oui, il y en a deux. Il en reste deux maintenant.
D'accord, parce que moi, je vais à la Plaza Saint-Hubert, mais l'exposition de crèche, c'est sur Ontario.
Ontario, oui. Ensuite, vous pouvez jusqu'au 31 décembre 2025, les Belles de décembre au Carrefour Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu.
Mm-hmm.
Et enfin, jusqu'au 21 décembre 2025, au Moulin des Jésuites de Charlebourg, musée d'histoire des enfants.
Oh, on peut faire les quatre, ça fait un beau petit voyage.
Ben oui, absolument. Ben oui, oui. Ben oui.
Donc, à Beaconsfield, dans l'ouest de la ville, à Montréal, tout près d'ici, là, sur Ontario. Et puis ensuite, Charlebourg.
Charlebourg.
Et Saint-Jean-sur-Richelieu.
Saint-Jean-sur-Richelieu, oui.
Super.
Je vais vous en lire un dernier, parce que j'aime tellement ça, moi. Sous le sapin. D'où vient cette tradition de se faire photographier sous le sapin? Et pourquoi cette longue ligne d'enfants apeurés et en pleurs?
Sous le sapin ou sur les genoux du Père Noël?
Sous le sapin.
Ah!
Et pourquoi? Ben oui, c'est juste des photos autour du sapin, là.
Oui, 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 photos de famille, là.
Et pourquoi cette longue ligne d'enfants apeurés et en pleurs dans les centres d'achat?
Ah, c'est ça, dans les centres commerciaux.
Pour aller se faire photographier avec le Père Noël. Je suis de ceux, c'est Dominique qui parle, qui allait religieusement se faire prendre en photo annuellement chez Eaton, évidemment. Avant d'aller manger le morceau de dinde fourré à la farce au restaurant du sous-sol, parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller dans le Titanic du 9e, la grande salle à manger.
Le paquebot extraordinaire, qui est maintenant rouvert.
Oui. Mais malheureusement, on ne mange pas dans la salle à manger, on mange dans la pièce, dans l'entrée, dans le hall d'entrée.
Vous êtes allé, hein, au
moins une fois? Oui, je suis allé deux, trois fois, oui. Mmh. C'est vraiment
Est-ce qu'il y a de la dinde farcie?
Non, mais je ne suis pas allé à Noël.
Non, non. Ah, oh, bien, c'est bien. Rappelez-nous les coordonnées là, de ce beau livre.
Oui, quand je pense à mes Noël, aux éditions TNT, Dominique Trudeau, François Guillet, et c'est en format 8 par...
Un genre album.
Oui, c'est ça. Ben, ce qui est pratique pour les dessins.
Mm-hmm. Et c'est tout souple, ça se fait
bien. Oui, ça se plie bien. Tu sais, tu peux l'ouvrir, puis là, tu sais, ça se fait... Un bon exemple, c'est qu'on peut le découper, puis là, je vous le passe.
Ah, c'est un livre interactif.
Ah oui, non, vraiment. Là,
on joue. Oui. OK. Et puis, vous vouliez terminer aussi en nous faisant part de quelques beaux marchés de Noël en Europe.
En Europe.
Il y en a aussi au Québec.
Ah oui, il y en a évidemment. Ouais. J'en ai parlé l'an dernier.
Celui de Québec, qui est en cours, celui de Montréal aussi, entre autres, parce qu'il y en a à l'Assomption.
Ah, il y en a
partout.
Mais
il y en a des plus beaux. Je veux pas dire qu'il y en a des plus beaux en Europe, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas tous aussi intéressants que les autres. Bon.
Et ils viennent. Le musée de Noël est originaire d'Europe. Alors,
c'est comme ça. La tradition a commencé là-bas.
Alors, Francfort en Allemagne. Et il s'agit l'un des plus anciens, pas le plus ancien.
Vous l'avez visité, Mathieu?
Oui.
Ah.
Mathieu a vécu en Allemagne.
Un des plus anciens marchés de Noël d'Allemagne. En effet, il a lieu tous les ans depuis 1393.
Oh, ça remonte à...
Ça remonte, oui. Mais ce n'est pas le plus ancien. Avec son carrousel, ses nombreux petits kiosques de marchands, ses choristes et son abondance de lumière, il s'inscrit dans la plus pure tradition des marchés de Noël. Le marché de Noël de Vienne, en Autriche.
Il y en a plusieurs à Vienne aussi.
Oui. Prague, magnifique Prague.
Ah, vous l'avez
vu? Marché de Noël à Prague, oui. J'ai eu l'occasion d'y aller aux fêtes, oui.
Chanceux.
Vienne s'avère une véritable ville emblématique de Noël. Il s'y déploie une multitude de marchés tout au long de la période des fêtes. Le plus connu reste sans contredit celui situé devant l'hôtel de ville, la Rathausplatz, né en 1278, selon les historiens. C'est encore plus vieux.
Oui.
On y trouve des centaines de petits chalets en bois remplis de cadeaux, de décorations artisanales, etc. Le marché de Dresde en Allemagne. Mathieu, l'avez-vous vu celui-là?
Non, pas celui-là.
Ah. On vient en Allemagne.
Dans la région de Saxe, celui-là, et on trouve un marché des plus impressionnants sur la place de Altmark. Créé en 1434, il n'était ouvert à l'époque qu'à la veille de Noël, et au 18e siècle, de nombreux travailleurs ont commencé à y venir pour vendre leurs jouets en bois. Ensuite, vous avez le marché de Noël de Zurich, en Suisse. Ce ne sont pas les marchés de Noël qui manquent dans la plus grande ville de Suisse. En effet, on en compte près de 10. Mais le plus impressionnant reste sans contredit celui qui se déroule à la gare centrale, soit l'un des plus grands marchés couverts d'Europe. On descend du train et on arrive dans les marchés.
Wow!
Oui.
Le train, ça aussi, c'est agréable.
Ah oui, un beau voyage en train. Ensuite, à Barcelone, en Espagne, la Fira de Santa Lucia. C'est le marché le plus célèbre et le plus classique de Barcelone, et sans contredit, la Fira de Santa Lucia, ça vaut la peine. Il a lieu chaque année sur la Plaza Nova, en face de la cathédrale de Barcelone. Avec plus de 300 kiosques, il offre de tout pour enlever la maison, en plus de cadeaux d'artisanat et de produits gourmands. C'est aussi l'endroit où tout est indiqué pour vous procurer votre bûche Cagatio de Noël, décorée d'un visage amical à nourrir. Le marché de Noël de Strasbourg, en France.
Un visage amical?
Oui, ben, il y a un dessin, mais on peut manger le dessin. Imagine que c'est en
pâte d'amande.
En garniture, là, oui. En sucrerie. Marché de Noël de Strasbourg.
En aliments ultra transformés.
Oui.
Mais une fois n'est pas coutume.
Du côté de la France, c'est vraiment à Strasbourg que la tradition des marchés de Noël est à son comble. À partir de la place Breuil, devant l'hôtel de ville, vous trouverez plus de 300 petits chalets répartis sur plusieurs sites.
Ah, oui. Et ensuite, on passe la journée là. Oui, et ensuite, même on y retourne le lendemain.
Et ensuite, il Magico Pesale di Natale à Assisi en Italie et le marché Noël de Bruges en Belgique qui termine. C'est 8 là, qu'on avait.
Merci. Il y en a plus. Vous avez pris ça dans TV Hebdo?
Oui, TV Hebdo.
Une de vos sources préférées.
Oui, ben oui, j'aime bien ça.
Marie-Claude Viola qui a écrit.
Oui, c'est cela.
Merci Serge Bradet. Merci Isabelle Falardeau.
Bonne journée.
Dressed in white,
God's not gonna trouble the water.
The leader looks like the Israelite.
God's not gonna trouble the water.
See that band all dressed in red.
God's not gonna trouble the water.
Looks like the band that Moses led.
God's not gonna trouble the
coming on me.
God's not gonna trouble the water.
If you don't believe I've been redeemed,
God's not gonna trouble the water.
Just follow me down to Jordan Stream.
God's not gonna trouble the water.
Why don't you
dans le chœur Jaira Gospel et une famille de chœurs. Jaira Gospel, une famille de chœurs, c'est le titre d'un documentaire qui a été réalisé par Willem de Kaye qu'on va pouvoir découvrir à partir de demain, 11 décembre, tout à fait gratuitement sur onf.ca et l'appli aussi, les applis, donc toutes sortes de plateformes sur ONF. L'Office national du film. Bonjour, Willem.
Bonjour, Hélène.
Merci d'être là. Alors, faisons un petit peu connaissance avec vous. À quoi ressemble votre parcours professionnel, Willem?
Mon parcours, je suis originaire de la Martinique.
Pays chaud.
Oh oui, la chaleur, la plage. Puis je suis venu en étant adolescent au Québec. Donc, ça a
Qu'est-ce que vous avez amené ici?
Mes parents. Mes parents. Fait que ça a été un gros contraste,
changement,
un choc,
oui.
Finalement. Puis j'ai étudié ici en cinéma pendant des années. Je travaillais sur des plateaux comme directeur de production, sur plusieurs shows TV. Puis j'ai toujours aimé ça, la réalisation. Donc j'ai alterné travail et réalisation.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser un documentaire sur une chorale, particulièrement le chœur Gyra Gospel?
Oui. Ben, c'était la curiosité, je pense. J'ai vu la chorale en 2019 au Festival de jazz de Montréal, sur la scène principale. Puis j'ai été émerveillé par le chant, l'énergie du show, puis le public qui était émerveillé. J'étais comme, wow, OK, c'est quelque chose. Donc, j'ai contacté la chef de chorale, Carole Bernard. Mm-hmm. Puis on a discuté, je lui ai parlé de moi. Puis j'ai... En fait, c'était vraiment la curiosité. Et donc, j'ai découvert les membres de la chorale. Puis c'est comme ça que l'idée est partie tranquillement.
Parlez-nous donc justement de la directrice de chœur, Carole Bernard.
Oui, Carole Bernard, ça fait bientôt 30 ans maintenant qu'elle est dans l'industrie du gospel au Québec. Elle n'était pas destinée, selon ses mots, à faire du gospel. C'est une fille d'immigrante qui a fait des études en mathématiques puis en finance.
Ah oui.
Le gospel, la passion du gospel lui a pris, puis elle a tout lâché du jour au lendemain pour faire du gospel. Donc c'est l'une des, en fait c'est l'un des piliers au Québec aujourd'hui du gospel en français et en anglais.
Et on la voit diriger dans votre documentaire avec beaucoup de doigté, beaucoup d'intelligence, beaucoup de talent également. Elle chante aussi.
Oui, puis j'aime toujours l'expression une main de fer dans des gants de velours.
Oui, oui, dans un gant de velours, tout à
c'est
fait.
C'est vraiment ça, c'est vraiment...
Elle réussit à passer ses messages, mais avec diplomatie.
Exactement, ouais, c'est ouais, très, ouais. très strict, puis je pense que ça fonctionne bien pour le groupe parce qu'ils apprennent très vite, ils apprennent beaucoup.
Oui.
Mais c'est très strict, mais ça marche très bien. Puis...
C'est ça, moi j'ai déjà fait partie d'une chorale pendant 5 ans et j'étais fascinée par le chœur et aussi par la directrice de chœur. J'adore sa manière d'approcher son groupe. Elle est exigeante, mais ça donne des résultats extraordinaires.
Oh,
ils
oui.
sont tous au poste, comme on
vraiment,
dirait.
Vraiment, vraiment, vraiment.
Et dans votre note d'intention, vous parlez d'un documentaire qui se regarde et s'écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, mais je pense que l'objectif aussi, quand je développais le documentaire avec l'ONF, c'était de faire un film qui s'écoute facilement. J'aime toujours raconter cette anecdote, mais je pense qu'en septembre, j'ai montré le film à un ami. Puis il disait que c'est le genre de film qu'il écouterait pendant qu'il fait sa dinde de Noël. C'est le genre de film qui s'écoute très facilement.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de musique.
Exactement.
Oui, je comprends.
Les transitions font que c'est facile à écouter. Je me suis essayé à l'exercice très récemment aussi. C'est 46 minutes, puis ça s'écoute très facilement.
Un moyen métrage.
Exactement.
Ouais,
c'est
ouais.
ça. Donc, je voulais faire un film qui s'écoute, je pense aussi.
Et comment la collaboration avec l'ONF s'est réalisée?
Alors, le projet a démarré... Ben, en fait, les premières discussions ont démarré en 2019 avec Carole. Malheureusement, la pandémie a suivi.
Carole, la directrice du chœur.
Exactement.
Ouais.
Puis, en 2022, j'ai relancé un peu les discussions avec Carole Bernard. Et j'ai approché l'ONF pendant les RIDM, les rendez-vous du documentaire de Montréal. Et ils ont accroché avec l'énergie du projet, la vibe très feel-good du projet. Donc, c'est comme ça que ça a accroché. Puis, on est parti en développement, on a commencé à écrire. Et ça a commencé comme ça avec l'ONF en 2022.
Quand vous dites « on », vous avez travaillé en équipe?
Exact. J'ai travaillé avec le producteur du projet, Pierre-Mathieu Fortin, et Mélanie Lanier aussi, qui était productrice déléguée sur le projet. Donc, on a été une belle équipe au développement pour suivre la chorale, commencer à rencontrer les membres, préparer tout ça, puis voir quelle langue on approchait pour raconter l'histoire de cette chorale.
Et comment s'est déroulée justement votre immersion au sein du groupe?
Quand j'ai contacté Carole Bernard, donc la chef de chorale, elle m'a dit « Oui, c'est une bonne idée de faire un documentaire sur une chorale de gospel, mais pour faire un documentaire sur une chorale, il faut que tu sois membre d'une chorale. » Donc,
Vous êtes inscrit comme choriste?
Je me suis inscrit comme choriste, pas à cette chorale-là, à une autre chorale qu'elle dirige, qui s'appelle la Montreal Gospel Choir.
Ah.
C'est une chorale amateur où il y a 80 choristes. Donc, j'ai fait partie de la chorale. Je me suis immergé dans la vie d'un choriste pendant 2 ans. Donc, les répétitions, les concerts, le
rythme. Il y a beaucoup de travail derrière ça.
C'est très exigeant.
Avez-vous aimé votre expérience?
J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça très, très fun. Puis aussi très formateur aussi sur savoir où poser mon œil, où poser la caméra finalement, une fois que j'étais confronté au tournage.
Oui, vous chantiez, mais en même temps, vous faisiez le travail de réalisation dans votre tête.
C'était exactement ça. Puis, c'est pas tous les jours. J'ai beaucoup aimé ce tournage parce qu'on a eu beaucoup de fun. C'est pas tous les jours que pour son travail, on écoute de la belle musique, puis on écoute des choristes aussi talentueux.
Ouais. Le film montre que le Gyra Gospel, il faut dire que ça s'écrit le J-I-R-E-H. Alors,
oui.
On est porté à dire j'irai ou j'irai, mais c'est Gyra Gospel Choir. C'est pas seulement un ensemble musical, mais c'est aussi une communauté. Comment vous décririez cette communauté?
Oui, c'est ce que j'ai réalisé aussi pendant le développement puis le tournage du documentaire, c'est que ces personnes qui, à première vue, n'ont aucun point commun, ont des générations différentes. Je pense que le plus jeune a 20 ans, la personne la plus âgée de la chorale a 60 plus années. Donc, c'est des générations quand même qui s'entremêlent puis qui se côtoient. Puis aussi une diversité culturelle de Montréal. Donc, c'est beaucoup d'éléments qui font qu'à première vue, ouais, c'est comme c'est difficile de trouver un point commun entre ces personnes. Puis finalement, il y a plusieurs choses qui les relient. Leur foi, leur passion pour la musique, puis cette envie de faire quelque chose de plus grand que soi, de proposer quelque chose qui les dépasse. Fait finalement, ces personnes qui se côtoient tous les jours pendant des années, puis même pendant plus de 30 ans, deviennent finalement une famille. Puis ils connaissent les enfants qui naissent, les oncles, les tantes. Puis finalement, ça devient une sorte de petite communauté et de famille, un peu un petit jardin secret finalement. Donc, c'est aussi ça que j'ai voulu montrer avec cette famille de cœur.
Willem Decay, c'était quoi le grand objectif de ce film-là?
Oui, je pense que l'objectif, c'était aussi de démystifier c'est quoi une chorale de gospel. Il y a souvent une idée un peu préconçue de la chorale de gospel avec des grandes touches blanches dans une église. C'était aussi de montrer
le message de Jésus-Christ qui est important, aussi. Mais qui passe dans le documentaire. Là. Oui, on n'est pas obligé d'avoir la foi nécessairement pour apprécier le film non plus.
Exact. Puis c'est un aussi des messages du film, c'est que évidemment le gospel vient d'une racine très religieuse, mais il est sorti de l'église pour être finalement partout dans des salles de concert, dans des salles de spectacle, être accessible à ceux qui veulent écouter juste de la musique puis profiter de cette musique. Donc c'était aussi l'objectif du documentaire, de démystifier c'est quoi la musique gospel, c'est quoi être... faire partie d'une chorale de gospel. Puis je pense que la spécificité de cette chorale aussi, c'est de chanter en anglais, en français, au Québec, à Montréal. Puis certaines touches ou certaines compositions de musique de la chorale sont très inspirées de l'immigration à Montréal. Donc il y a des touches de compas, de dancehall, qui font que cette musique gospel reste du gospel, mais a beaucoup évolué.
Mm-hmm. J'ai remarqué qu'il y avait un blanc dans le groupe.
Oui, et c'est le mari de Carole.
Oui, on l'apprend au fil du documentaire. Et Carole Bernard disait justement que, un peu comme la musique traditionnelle qu'on écoute dans le temps des fêtes, et pourtant, il y a des formations de musique traditionnelle qui font le tour du monde à longueur d'année. Ils sont appréciés toujours. C'est de la bonne musique, pas juste en décembre ni en janvier. C'est comme le gospel. Il y en a qui disent « Ah, je vais m'offrir un concert avec une chorale gospel. Ça va me mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. » Et pourtant, ça peut être bon n'importe quand.
Oui, vraiment. Puis j'irais même plus loin. C'est aussi une musique qui raconte sa peine, sa tristesse. On voit l'exemple avec une choriste qui s'appelle Madonna. Dans le documentaire, qui a vécu une situation difficile, puis qui raconte comment la chorale a été son jardin secret, puis son tremplin, finalement, pour aller mieux. Fait que ma définition...
C'est vrai pour à peu près toutes les chorales, parce que c'est un groupe, et il y a des liens qui se créent, puis souvent, c'est très serré, là.
Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est ce que j'ai remarqué aussi dans cette chorale, c'est qu'il y a vraiment cet esprit familial, cet esprit de communauté, quand quelqu'un va mal, on est avec lui pour le soutenir.
Oui, il y a de la solidarité.
Exact. Puis j'avais vu très récemment une statistique. C'était 70% des Québécois ont eu affaire indirectement ou directement à une chorale, donc ont déjà été dans une chorale ou connaissent quelqu'un qui a été dans une chorale. Puis c'est aussi l'un des objectifs du documentaire, c'est de rapprocher des gens qui ont déjà vécu cette expérience ou qui veulent vivre cette expérience de qu'est-ce que ça a l'air d'être dans une chorale, c'est quoi cet esprit de communauté, qu'est-ce qui lie ces gens entre eux. Donc c'est beaucoup de choses, puis ma définition du gospel a beaucoup changé pendant le
oui, ça s'est transformé au fil du temps.
Exact.
Et vous disiez tantôt que vous aviez fait partie d'une chorale pendant 2 ans pour... vraiment vous immerger, vous imprégner, puis savoir de quoi il en retournait vraiment. Est-ce que ça vous... Pourquoi vous avez arrêté après 2 ans? Parce que vous aviez un film à faire, j'imagine? Ou...
Oui, c'était ça la raison principale.
Est-ce que vous aimeriez y retourner un jour à titre de choriste?
Oui, j'y pense. Pour le moment, je prends une pause parce que le tournage ça a été quelque chose de faire un film. Mais j'y pense, puis évidemment, je vais à tous leurs concerts maintenant.
Ah oui, vous êtes un fan. Quel est votre pupitre?
Wow.
Votre timbre de voix.
Wow. Je suis ténor.
Ah, une voix riche.
Alors, pour être tout à fait honnête, quand Carole m'a pris en audition, je ne pensais pas passer. J'étais comme, wow, OK, j'espère qu'elle va me prendre parce qu'il y a tellement de personnes talentueuses dans cette chorale. Puis finalement, elle m'a pris, j'espère, pour ma voix. Puis ça s'est bien passé. J'ai participé à une chorale quand j'étais plus jeune. Mais ma voix a très vite mué, donc ça a été plus compliqué.
Oui, quand ça mue, ça change.
C'est ça.
Mais après donc, ça, on s'adapte.
Exact.
Et William Decaille, à qui s'adresse votre documentaire?
Je pense qu'il s'adresse aux passionnés de musique, déjà. À toute personne qui souhaite découvrir c'est quoi une chorale de gospel, qui veulent passer un bon temps aussi devant un documentaire musical qui est facile à écouter, puis qui veulent profiter pas que pour le temps des fêtes évidemment, mais pour tous les moments de l'année, et veulent avoir 46 minutes de bonheur musical.
Oui, alors c'est dès demain sur les plateformes de l'ONF, comme je le disais tantôt. Et sinon, qu'est-ce qui vous occupe pour la prochaine année? Avez-vous d'autres projets cinéma?
J'ai quelques projets en cours. Je travaille en ce moment sur un jeu vidéo aussi, donc on essaie de toucher à tout.
Oui, et puis vous êtes bien installé au Québec parce que vous disiez que c'était vos parents qui avaient décidé de partir de la Martinique pour s'installer au Canada. Vous n'avez jamais voulu retourner dans votre pays natal?
J'y ai pensé plusieurs fois, mais maintenant je suis attaché à mon Québec. Je suis attaché à mon Québec malgré l'hiver, malgré le froid. Puis on écoute du gospel.
Oui, ça réchauffe l'âme, tout ça. À fait. Alors je rappelle le titre du film, c'est Gyra Gospel, une famille de cœur, une réalisation de Willem Decaille. Et je l'ai vu en français, non, en anglais, sous-titré en français.
Okay.
C'est comme ça qu'il est présenté.
C'est ça. Il est aussi disponible en français, sous-titré en anglais.
Bon.
Donc, pour tout le monde, pour tous les goûts, puis pour toutes les langues.
Parfait. Moyen métrage qui se regarde et qui s'écoute aussi.
Et qui
très
s'écoute.
Bien.
Oui.
Merci beaucoup, Willem Decaille.
Merci beaucoup, Hélène.
Écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Dans les rues de Rio, un enfant s'émerveille en voyant défiler sous ses yeux le cortège or et bleu des fanfares enivrés de soleil. Oubliant ses habits, ses pieds nus, dans ses rêves éperdus, il se prend pour un roi, conduisant le sabbat. Au milieu des cymbales, des feux de Bengale, les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de fleurs, dans le cœur de la fête, il jette son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant tend ses mains en chantant et devient le copain de tous les musiciens. Au milieu des cymbales, des feux de Bengale, les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de fleurs, dans le cœur de la fête, il jette son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant vit son rêve en marchant. Il se prend pour un roi, conduisant le sabbat. Et bientôt un enfant, 10 enfants, 1000 enfants l'accompagnent en jouant des cymbales, en entrant dans le bal, en dansant sous des arches de fleurs. Et l'enfant qui sourit à plein feu se nourrit de chansons, comme font tous les anges oubliés du bon Dieu. Au milieu des cymbales, des feux de Bengale, les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de fleurs, dans le cœur de la fête, il jette son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant disparaît dans la nuit, et bientôt sur un banc, il s'endort en rêvant. D'un million de cymbales, de feux de Bengale, de fleurs et d'étoiles, d'étoiles et de fleurs, c'est le cœur de la fête qui dort dans son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant s'émerveille en rêvant, comme une fleur de faubourg au soleil de l'amour.
Frida Bocara, l'enfant aux cymbales.
Chronique cinéma avec Louise Véronique Sicotte. Bonjour Louise Véronique.
Bonjour Hélène.
Elle est arrivée en transport en commun.
Oui.
Heureusement qu'il n'y a pas de grève, hein, parce que ça circule mieux comme ça en métro,
absolument,
en autobus.
Oui.
Alors aujourd'hui, Louise Véronique, vous nous présentez, vous avez vu trois films réalisés par trois femmes. Et on commence par Calories.
Que vous avez vu également.
Et que j'ai beaucoup aimé.
Et moi aussi.
Oui.
Oui.
Ah, alors... J'ai même versé une larme. Là. Je trouvais ça... Ça fait du bien, ce genre de film-là.
Oui, c'est un film très, très humain et c'est porté par des femmes.
Oui.
La réalisatrice est Esha Marjara. C'est son cinquième long métrage.
J'avais jamais rien vu d'elle.
Moi non plus.
Non?
Et c'est une réalisatrice indo-canadienne.
Le titre est intriguant, mais on,
oui,
comprend,
on comprend
à un moment donné de quoi il en va.
Très, ouais, rapidement,
ouais,
en fait,
oui,
parce,
oui,
que en fait, il s'agit d'un film porté par des femmes, par trois générations de femmes. Donc, la mère, Monica, et j'aimerais mentionner le nom de l'actrice,
bien, oui,
c'est Elora Patnaik, qui est absolument touchante, un très beau personnage de femme.
Et quand on ne les connaît pas du tout, là, on embarque encore plus,
oui,
parce que ce sont aucune référence.
Oui,
et,
oui.
C'est une bonne interprète.
Absolument.
Ouais.
Et cette femme est une mère de deux adolescentes, mère célibataire, déchirée par son travail, très, très prenant, stressée, tourmentée aussi. On ne sait pas trop pourquoi, mm-hmm, au début. Et c'est ça qui est bien, parce que ce que j'ai apprécié du film, c'est que les informations se dévoilent peu à peu.
Ouais.
Alors, on dévoile peu à peu le secret de cette famille.
On est intrigué tout
au long. De par ses réactions. Alors, elle décide d'envoyer ses deux filles... Donc, une qui compte ses calories, justement, qui a un problème d'anorexie, et l'autre qui est un peu plus âgée, 17 ans, mais un peu rebelle, en,
ouais,
fait. Donc, les deux sont un peu en tension par rapport à leur mère. Elle les envoie en Inde.
Deux actrices aussi qui sont formidables.
Formidables, très crédibles. Alors, elle les envoie en Inde chez leur grand-oncle et leur grande-tante. Et pour ces deux jeunes filles-là, elles ne connaissent très peu de leur origine,
ouais,
leur racine.
Choc culturel.
Et là, peu à peu, c'est comme une sorte de voyage initiatique. Et la mère viendra les rejoindre. Et là, on va découvrir davantage qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les tourments qu'elle a, pourquoi elle cache ses racines et son passé. Et c'est bien sûr relié à, on peut le dire peut-être, à la tragédie de Air India, mm-hmm, donc en 1985, parce que c'est aussi relié à son histoire personnelle, à la réalisatrice qui a perdu dans cette tragédie, cet attentat terroriste, elle a perdu sa mère et sa jeune sœur. Donc, c'est un peu aussi ce qu'elle relate.
À la toute fin, elle rend hommage. Elle dédie son film,
oui,
à toutes les victimes, là, qui,
oui,
sont au-delà de 300
329.
Quelques. Ça s'est passé en 1985,
oui,
je me souviens encore.
Oui,
de...
oui, 329, oui, victimes. Alors, mais la majeure partie du film se déroule en Inde. Et là, on peut découvrir toute la culture.
Ça donne envie d'y aller.
Ça donne envie, l'effervescence. On peut dire que aussi la réalisatrice a très bien capté l'effervescence de l'énergie. L'énergie,
ouais,
qui se dégage. J'aimerais souligner aussi l'apport du grand-oncle, qui est une sorte de sage aussi, et qui va aussi apporter beaucoup de tendresse et qui va créer une relation,
ouais,
avec sa petite, la petite nièce. Et j'ai trouvé ça très, très,
il faut lui faire
humain.
Prendre conscience aussi,
oui,
de son problème.
De son problème aussi. Donc,
avec le comptage de calories.
De calories.
Elle est toujours en train de courir.
C'est ça. Mais
il parle de chaleur à un moment donné, mais
chaleur.
On n'en dira pas trop.
On n'en dira pas trop. Mais c'est un film, je dirais, à portée universelle parce que bien des femmes peuvent s'identifier aussi à Monica, la mère, qui est stressée, qui est toujours déchirée par le travail et sa vie familiale.
Mm-hmm.
Et aussi les tensions qu'il y a entre elle et ses enfants. Donc, bien des femmes aussi peuvent s'identifier à ça, parce qu'à l'âge de l'adolescence, c'est pas toujours évident. C'est aussi un clash culturel entre la culture indienne et la culture occidentale aussi.
Ouais.
Et j'ai trouvé que c'était un film qui était très émouvant. Et aussi, on découvre aussi certains aspects de la culture indienne.
Très, oui, émouvant, très, très authentique, calories, et qui nous fait découvrir le feu intérieur de tous ces personnages-là,
oui,
finalement.
Oui, ils sont très bien interprétés.
Oui.
C'est, C'est en anglais, mais avec sous-titres en français. Et ce sera présenté à partir du 14 décembre au cinéma du musée.
À voir, à donc. Voir. Autre film, cette fois, je pense que c'est un documentaire.
Oui.
Marche au pays réel de Marie-France Lécuyer. On a un extrait, en fait, la bande-annonce.
Le Nord, c'est un lieu qui est mal représenté dans notre imaginaire collectif. L'objectif, c'était de traverser le Québec du point le plus au sud jusqu'au point le plus au nord. Cette traversée-là révélait en fait ma méconnaissance profonde du territoire québécois.
Chaque rencontre avec les Inuits qu'on a eus, ça a toujours été magique. C'est la même chose avec les cris.
We have a very close tie with our land.
Du moment que tu fais les premiers pas, ça devient vrai. Tu vas avoir foi, tu vas avoir mal. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver.
Je pense que le territoire, c'est un des derniers lieux où on peut aller se perdre et reconstruire un rapport qui est plus sain au monde.
Marche au pays réel. Titre qui nous intrigue quand même.
Oui, en effet, parce que le pays réel, c'est le Québec dans toute son entité. Et c'est ce qu'on découvre dans ce film réalisé par Marie-France Lécuyer. Elle suit ces deux, les deux voix qu'on entend, ce sont les deux, on pourrait dire des explorateurs, des aventuriers, en fait. Samuel Lalande Marcon et Simon-Pierre Gonneau. Qui ont fait une traversée, comme il l'explique dans la bande-annonce, du sud, du point sud jusqu'au point le plus au nord à la baie du
Thon. Ça s'est passé en quelle année?
En 2023. Et ils ont parcouru plus de 3000 kilomètres à vélo et en ski. Alors, en plein hiver, là, bien sûr, dans le nord, c'était l'hiver. Samuel Lalande-Marcon, lui, a fait tout le parcours. Et Simon-Pierre Gonneau l'a rejoint parce qu'il avait déjà fait cela auparavant. Donc,
ah bon?
Une partie, il s'est arrêté. Alors, il l'a rejoint là où il s'est arrêté et ensuite, ils ont continué ensemble.
Ce sont deux amis?
Pas nécessairement. En fait, ils se sont rencontrés parce qu'ils avaient ce projet commun là et tout. Ils sont devenus, je pense, bien sûr, des amis par la suite.
Ouais,
parce qu'ils ont traversé beaucoup de difficultés.
Oui.
L'équipe de réalisation qui les accompagne les suit presque pas à pas dans toute leur, on pourrait dire, leur tribulation, mais leur difficulté physique, mais aussi émotionnelle et mentale, parce que parcourir autant de kilomètres dans des conditions hivernales extrêmement difficiles, c'est quelque chose. Le film aussi montre les deux entrevues de chacun, des entrevues individuelles suite à leur parcours, leur périple. Donc là, ils racontent un peu ce qui s'est passé de manière individuelle. Et c'est intéressant parce que parfois, leurs propos se complètent. Mm-hmm. Et d'autres fois, c'est deux visions différentes de leurs difficultés, de leur état émotionnel. Il y a aussi les rencontres avec les communautés cris et inuits et avec les aînés principalement, ce qui fait que ils apprennent le savoir, les valeurs ancestrales de ces communautés là. Et ce qu'on découvre dans le film, c'est que c'est le Québec, c'est en grande partie la nordicité, et ce sont des grandes régions qu'on ne voit pas ou qu'on entend peu parler. Il y a aussi un aspect politique parce qu'il y a des images d'archives sur, par exemple, les négociations difficiles avec les communautés durant les grandes exploitations des ressources naturelles.
Mm-hmm. Et les gouvernements,
donc gouvernement Bourassa et tout. Donc, on revient aussi sur ces événements-là. On parle aussi de la toponymie moi que je ne savais pas, mais que plusieurs noms de régions ou d'endroits dans le Nord ont été autochtones, les noms autochtones ont été étaient remplacés par des noms anglophones, des noms britanniques, français et même québécois, des noms religieux. Donc, on a enlevé aux Autochtones aussi même les noms qu'ils
Est-ce que c'est un documentaire qui choque? Qu'est-ce que ça provoque comme sensation ou réflexion?
Je pense que c'est un documentaire qui éclaire sur notre rapport à la nature également, mais aussi de voir que le Québec est immense. Et il y a aussi une narration dont on n'a pas entendu dans la
bande annonce. Arrêtons de se prendre pour le nombril du monde.
Exactement. Et une narration dite par Sébastien Ricard. Ce sont des narrations qui ponctuent le film de manière plus poétique et philosophique.
Ça vient pas plaqué comme narration,
c'est un autre...
Ça s'intègre bien,
mais oui. C'est complètement différent. C'est plus une réflexion philosophique sur le territoire et très poétique. Mais avec la voix de Sébastien Ricard, on en redemande. Mais c'est un, c'est un film... Ah oui, et Samuel Lande Marcon a fait un livre aussi, a écrit un livre suite à cette aventure. Donc, c'est au-delà de l'exploit physique et de la détermination mentale. C'est beaucoup plus que cela. C'est un film qui, surtout sur grand écran, a des images spectaculaires. Ouais. Et on a entendu un petit peu aussi la musique. Hein. La musique aussi apporte beaucoup de richesse et de profondeur.
Du violon.
Oui.
Marche au pays réel, c'est à voir.
C'est à voir. C'est au cinéma Beaubien.
Un documentaire dont on a entendu parler récemment,
oui.
Là, parce que la réalisatrice était invitée à Tout le monde en parle,
oui.
Le serment d'Hippocrate.
Oui.
Plus de 2,3 millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille.
C'était chaotique hier soir à l'urgence qui était saturée.
C'est une médecin spécialiste de l'Argentine. Elle a des années d'expérience. Et là, son plan B, elle songe à aller travailler dans une autre province.
Docteur, nous avons reçu les documents démontrant que vous rencontrez les exigences requises par le Collège des médecins du Québec, entre parenthèses CMQ. Aucune garantie ne peut vous être faite quant à vos possibilités d'obtenir un de ces postes. Ben, coudant, allez, chaque année, il y a des postes qui restent libres, là. C'est toi.
Qu'est-ce que ça prend pour un médecin de l'immigration pour devenir médecin au Québec?
C'est compliqué quand même un peu.
Oui.
Et souvent, les gens nous disent que c'est trop compliqué.
Déjà, on voit comme il y a des choses qui sont un peu contradictoires. C'est grâce à ma lutte que je suis là. Parce que si ça aurait été pour le système, j'aurais été renvoyée au Mexique.
C'est un petit peu frustrant parce qu'on se dit, au Québec, on me demande de faire un stage pour voir si mes compétences médicales sont réellement valables, etc. Et quand je retourne dans mon pays, je redeviens chef de service.
Que quand même, il ne faut pas oublier qu'un médecin formé à l'étranger qui n'a rien coûté aux Québécois, combien il peut voir de patients par année? Multipliez-le par 10 ans. Combien il peut aider?
Le serment d'Hippocrate, des médecins qui se posent des questions.
Qui se posent des questions qui sont parfois, bien sûr, dans des phases de découragement et on les comprend. Comme vous le mentionnez, Hélène, la réalisatrice a été invitée à l'émission Tout le monde en parle avec deux des protagonistes du film. En fait, la réalisatrice, bien sûr, c'est Nadia Zouaoui. C'est son cinquième long-métrage aussi.
Documentaire,
oui. Il faut dire que ce soir, il y a l'avant-première du film au cinéma du musée qui sera en présence de la réalisatrice et des membres de l'équipe. Et le film sera à la Cinémathèque, ce sera la version cinéma, parce qu'il y aura aussi la version télé plus tard en janvier. Donc, pour voir le film déjà, on peut y aller au cinéma.
Parfait.
C'est un film
qui...
Un brûlot qui en espérant, pourra faire bouger les choses s'il est vu par les personnes concernées. Qui prennent des décisions. Elle suit quatre médecins qui sont tous des professionnels qui ont un long bagage d'expérience, qui parlent français.
Bardés de diplômes.
Oui, bardés de diplômes, d'expérience dans leur pays, qui sont désireux aussi d'être utiles à la société d'accueil, donc le Québec. Elle a rencontré de nombreux médecins, mais son choix s'est arrêté sur ces quatre médecins, donc deux hommes, deux femmes, qui vivent aussi des expériences, des parcours différents.
Qui ne pratiquent pas la médecine?
C'est-à-dire qu'il y en a un qui pratique en Martinique et qui revient de temps en temps au Québec parce qu'il fait partie d'une clinique. Je pense que celle du Guatemala, on la voit dans le film qui va partir finalement pour Médecins sans frontières parce qu'ils doivent pratiquer. Hein? Ils ne peuvent pas pratiquer, ils ne peuvent pas cesser de pratiquer pendant de nombreuses années, donc ils doivent continuer à pratiquer. Mais ce qui est triste aussi, c'est que l'un d'eux, finalement, a décidé d'arrêter la médecine complètement.
Ah oui, et pourquoi?
Parce qu'il a essayé de tellement de nombre de tentatives que finalement...
Mais qu'est-ce qui bloque?
Ben, c'est la bureaucratie, c'est la difficulté académique. On suit chacun de ces médecins dans leur quotidien également. Bien sûr, il y a des entrevues, mais on les voit dans leur quotidien. Et on voit aussi, comme une sorte de tableau, tous les critères qu'ils ont cochés, on pourrait dire. Mm-hmm. Donc, ils sont très nombreux, les critères, mais ils sont presque tous cochés. Et là, souvent, ça bloque. On parle aussi qu'au Québec, il y a peut-être seulement 8% des par année des Québécois, des médecins étrangers qui sont acceptés, contrairement à l'Ontario, 31%. Donc, on se demande, en fait, dans le film, les médecins se posent la question, est-ce que c'est une méfiance envers les médecins étrangers? Est-ce que les médecins québécois veulent plutôt garder la tarte, ne pas la partager? Alors, il y a des questions qui se posent comme ça. En fait, ce film-là met des visages, met des réalités sur des statistiques. Et je pense que ça permet de prendre conscience que ces personnes-là veulent être utiles. Elles ont toutes les capacités, l'expérience. Mais pourquoi ça bloque?
Dans un système de santé défaillant, on parle de pénurie.
Alors, c'est un film qui, j'espère, va en éclairer ou en faire décider certaines autorités.
C'est bien fait?
C'est bien fait et chaque personne est très, très humaine. On les voit aussi, comme je vous disais, dans leur quotidien. Puis une va s'éloigner parce que elle va quitter son conjoint pour continuer à travailler. Donc, ce sont des drames personnels.
Est-ce qu'on essaie d'aller vers les personnes qui ont la responsabilité d'embaucher ces médecins-là?
Il y a une entrevue, comme on a entendu dans la bande-annonce, avec le président du Collège des médecins, mais comme il dit, c'est un parcours difficile. D'ailleurs, l'un des médecins dit « c'est la maison des fous ». Donc, c'est un peu comme le parcours du combattant dans la maison des fous. Alors, mais c'est à voir pour se donner, pour prendre conscience de cette réalité-là.
Aller au-delà de ça aussi, de la prise de conscience.
Oui, oui. Et elle, la réalisatrice, elle a voulu faire ce film-là il y a très longtemps, mais elle n'avait pas obtenu les fonds. Alors là, elle a eu les fonds et parce que autour d'elle, il y a cette réalité. Aussi, elle connaît de nombreuses personnes qui vivent cette réalité. Elle voulait la démontrer.
Mm-hmm. Uh-huh. En espérant changer les choses.
En espérant. Donc, un documentaire très utile, je pense, nécessaire.
Une œuvre utile.
Une œuvre utile.
Le serment d'Hippocrate de Nadia Zouaoui. Merci pour toutes ces belles propositions, Louise-Véronique Sicotte. On se retrouve en janvier.
En janvier, le 21. Oui.
Alors, joyeuse fête, très chère.
Joyeuse fête à tous les auditeurs.
Au plaisir. Auditrices.
Au plaisir. You better watch out, you better not cry.
I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
Daddy's watching.
He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you
better watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
With little tin horns and little toy drums and Rudy Doot Toot and Rummy Dum Dum.
Santa Claus is coming to town. Look at that crazy red suit.
Curly head, claws and cuddle and coo and elephant guns and kitty cars too.
Santa Claus is coming to town. Ride, ride, red, ride. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why.
Santa
is coming to town.
Santa.
Get rid of that frown, 'cause Santa Claus is coming to town.
I'm telling you why.
It's in the bag.
C'était Santa Claus is Coming to Town de Ella Fitzgerald.
Oui, Ella, Ella, comme chantait l'autre. L'Orchestre symphonique de Sherbrooke, qu'on appelle aussi l'OSS, est actuellement en tournée dans pas moins de 27 centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD et Maisons des aînés de l'Estrie. Une initiative qui permet aux résidents, mais aussi aux aidants naturels, de se plonger dans l'univers des fêtes. L'ensemble offre cette initiative, les rendez-vous de l'OSS, depuis 2019. C'est notre petite contribution à nos parents, à nos grands-parents et à tous ceux et celles qui sont dans les CHSLD, explique Nicolas Bélanger, directeur général de l'orchestre. Leurs réactions sont souvent spontanées. Certains fredonnent, d'autres battent doucement la mesure ou laissent remonter des souvenirs liés aux airs traditionnels, tandis que d'autres profitent simplement de l'apaisement procuré par la musique. Les vertus de la musique sur la détente, la mémoire et l'équilibre émotionnel sont largement reconnues, ce qui en fait un outil précieux pour soutenir la qualité de vie des résidents. Mais cette relation entre résidents et musiciens est tout sauf unilatérale. Les artistes tirent aussi des bénéfices à voir les yeux du public s'illuminer au son des « Vive le vent » et autres « J'ai vu maman embrasser le Père Noël ». Il y a un côté qui est très humain parce que les musiciens jouent pour faire vibrer les gens. Dans un milieu comme un CHSLD, c'est instantané. Ils le voient. Les résidents n'ont pas de filtre, dit Nicolas Bélanger, directeur général de l'OSS. Ils vivent un moment qui est très présent. La connexion est directe. Les gens sont proches. On n'a pas du tout de misère à recruter des musiciens pour cette tournée-là. Yves Desmarais demeure au centre d'hébergement Argile de Sherbrooke depuis environ un an et demi. Accompagné de sa femme Noëlla, il assistait à la prestation d'un trio de musiciennes dans la salle commune de l'établissement mardi. Ça met un baume sur le cœur. Il y a des gens qui veulent danser, il y en a qui tapent du pied, qui vont taper des mains. Ça illumine leurs yeux, c'est incroyable à voir. Ça leur ramène des souvenirs, je trouve ça vraiment extraordinaire, souligne Mme Desmarais. Quand on les voit, ça fait tellement chaud au cœur, c'est comme si on allait au théâtre avec eux. Continue l'aidante naturelle qui ne tarit pas d'éloges devant le travail de l'équipe chargée des loisirs au CHSLD. « On est chanceux. Je suis contente de l'avoir ici », rajoute-t-elle à propos de son mari. « Je le sens aussi qu'il est calme. Ça l'a apaisé et moi, ça me fait du bien. » La situation est similaire pour Henriette Leclerc. Elle aussi résidente du même établissement. Elle avait la chance d'être témoin du passage de l'OSS sur place en compagnie de son époux Jacques Couture. J'ai trouvé ça relaxant, on a vraiment eu un bon moment, affirme celui-ci. Elle est vraiment connaisseuse du rythme de la musique. Je le ressens beaucoup quand je suis avec elle. Quand je la tiens par la main, elle est comme le chef d'orchestre. Elle anticipe même la fin d'une pièce. On voit que le mouvement est là. Je trouve ça bien parce qu'elle intériorise la musique. On voit qu'elle ressent qu'elle a des émotions, dit M. Couture. C'est spectaculaire pour moi d'avoir accès à cette musique-là. Poursuit celui qui avait aussi pu se délecter des talents de l'OSS l'an dernier lors de cette même tournée. C'est très apprécié, c'est généreux de leur part. Annie Masson, la gestionnaire responsable du centre d'hébergement Argile, se montre, elle aussi, particulièrement satisfaite de cette collaboration avec l'Orchestre symphonique de Sherbrooke, rendu possible, entre autres, grâce à un financement provenant de la Fondation Vité et du Conseil des arts et des lettres du Québec. Ce sont quelques 150 résidents et proches qui assistaient au spectacle mardi. Pour eux, c'est un moment d'apaisement. Vive la musique!
«
un mercredi sous la neige. Soyez prudents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ici Hélène Denis. Merci Mathieu Tessier. On se retrouve demain à 9h30. Bonne journée.